Club.
Vous êtes ici?
Oui.
Et bien voilà, c'est l'ascension de Côté Club ce soir. On monte le son au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique avec Jean-Charles Dupuis qui nous l'assure. La nuit va nous perdre. Elle a failli avoir votre peau. Jean-Charles Dupuis, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Vous racontez 20 ans de nuit dans la cabine du bus Palladium dont vous avez été le DJ, le directeur artistique, dans le quartier chaud de Pigalle, années 70-80, des années héroïques et héroïnes que vous avez fait danser au-dessus du volcan et qui vous ont brûlé, mais vous en êtes bien sorti. À vos côtés, Axel Bauer, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Septième album studio superbe, Radio Londres.
Bonsoir,
en forme d'autoportrait où vous dites...
Bonsoir Axel.
Ils parlent entre eux, ok, très bien. Où vous dites, j'ai vécu plusieurs vies en une seule nuit, et on vous croit. On y entend votre père, des reprises de Gérard Manset, de Léo Ferré, une filiation de résistants qui en dit long. 22h30, on reprendra le fil de l'actualité avec Marion Guilbeault. Alors bonsoir et bienvenue. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard... sur France Inter.
Et avant de donner la parole à nos invités, on ouvre à l'instinct avec Fishback. Vous connaissez ? Très bien. Toujours hanté par nos années 80.
C'est très bien, Fishback.
Axel Bauer et Jean-Charles Dupuis sont nos invités côté club ce soir. Vous êtes-vous déjà croisés par le passé ?
Oui.
Oui.
À quelle occasion ?
Bus Palladium, je crois,
voilà,
et dans Paris,
ouais.
plutôt la nuit, je dirais.
Oui, plutôt la nuit.
Axel Bauer, septième album Radio Londres, Jean-Charles Dupuis, un récit, La nuit va nous perdre, où vous racontez 20 ans de Bus Palladium. Vous êtes entré en 79 comme DJ, puis ensuite directeur artistique. Le Bus Palladium, vous y êtes allé souvent, Axel Bauer ?
Alors, c'est ce que je disais à Jean-Charles, j'y étais Bien sûr, c'est à cette époque-là qu'on s'est connus, mais j'ai plus été dans la deuxième partie, quand la scène a accueilli des musiciens, et que j'ai fait des bœufs là-bas, j'ai joué souvent là-bas, en fait.
L'ambiance était comment? L'ambiance était bonne?
Très bonne, oui, bien sûr, il n'y a pas si longtemps, en fait.
Mais non.
J'y ai des souvenirs assez incroyables, notamment un soir où il y avait une sorte de fête comme ça, et j'ai joué Cargo, et Jean-Louis Aubert m'a rejoint derrière la batterie, et Richard Kolinka lui a dit, écoute, tu joues pas assez bien, alors je vais prendre la batterie, prendre plutôt la basse, donc il a pris la basse, j'ai conservé la guitare, et Louis Bertignac est arrivé, et tout d'un coup on a interverti, j'ai pris la basse, et c'est devenu la reformation de Téléphone.
Ça nous rappelle bien sûr les années fin 70, début 80 que vous avez partagé. Piqûre de rappel, vous venez de le dire, donc ça va aller vite, Axel Bauer. On va pas s'apesantir, c'est juste pour passer à autre chose. Cargo, 1983.
Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète.
Et puis un peu moins de 10 ans plus tard, éteint la lumière. Bien sûr, deux tubes imparables qui ont changé une vie. 1983, vous étiez préparé. Est-ce que vous avez bien vécu à cette époque cette notoriété?
Je crois que, comme tous les gens qui accèdent à une notoriété, j'ai fait des bons et des mauvais côtés au risque de vous décevoir, en fait.
D'abord,
c'est très loin, en fait. J'avais 22 ans. Alors, ouais. Bien sûr, c'est une sorte de votre vie change, et puis. Il s'est passé plein de choses cette année de Cargo, plein de rencontres, des rencontres incroyables, puisque j'ai rencontré Roger Daltrey, par exemple, qui avait été un peu mon inspirateur avec les Who de faire de la musique. Et puis, tout d'un coup, je le rencontre, il aime Cargo, il va même le reprendre.
Donc, tout à fait.
C'est des occasions de rencontres comme ça. J'ai rencontré plein de gens. J'ai ensuite signé avec EMI Londres et je me suis retrouvé habitant à Londres et enregistrant là-bas mon premier album.
Un album fantôme en plus, non?
Pourquoi?
À Londres. Il est sorti, celui de Londres?
Oui, bien sûr. Il s'appelle Les Nouveaux Seigneurs.
C'était d'accord, mais il n'y avait pas un album en anglais que vous deviez faire aussi?
Non. Il a été enregistré en anglais et effectivement, il est sorti de façon plus confidentielle, par contre.
Voilà. Ouais. Alors, je vous pose cette question sur la notoriété et aussi sur votre image. Est-ce que vous avez eu aussi le sentiment d'avoir vécu le délit de belle gueule qui a pu parasiter ce que vous vouliez développer musicalement? Je vous pose cette question parce que des années plus tard, c'est arrivé à Raphaël.
Hein?
Ben ouais. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose dans l'image qui fait que on vous impose même peut-être les maisons de disques un certain registre, un certain son, et qu'on ne va pas dans la direction qu'on voudrait aller.
Alors moi, on m'a rien imposé. D'ailleurs, on s'attendait pas du tout à ce que Cargo réussisse. Le patron de la maison de disques avait même envoyé une circulaire au staff de promotion en disant ne travaillez pas là-dessus, ça marchera pas. Donc j'étais pas le bienvenu en fait. Mais il est vrai que comme l'image était très mon image était très, comment dire, très construite. J'avais trouvé cette casquette que je mettais en arrière. Je m'étais vraiment fait un look très, très original, finalement. Et je crois qu'on me comparait un petit peu à Marlon Brando.
Tout à fait, le côté
style,
t-shirt voilà. Marlon Brando. Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on n'imaginait pas ce jeune marin Marlon Brando travailler sa guitare 6 heures par jour. On l'imaginait plutôt en train de boire des verres dans des bars obscurs de la nuit, dans la nuit. Et bien sûr, je sortais aussi, mais j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui travaillait beaucoup sa guitare, la composition, l'écriture. Donc on m'imagine. Vous avez raison. Quand on est pas mal, on va dire, on vous imagine pas en train de travailler.
Vous comprenez la question que je lui ai posée? Jean-Charles Dupuis, quelle image vous aviez, vous, à l'époque, d'Axel Bauer et puis de ce titre qui s'était emparé de la scène française, Cargo?
Moi, je m'étais petite française, ouais, mais le sien en faisait partie. Donc, bon, voilà, j'adorais Bachung. Donc, Bachung et lui faisaient partie des rares artistes français, avec évidemment Serge Gainsbourg, entre
autres. Lerita aussi, non?
Lerita,
mais pas vraiment. Hein.
Mais pas vraiment. En fait, tout ça, c'était lié aussi au Bus d'Acier, qui a été le grand prix du rock français pendant de nombreuses années, où de nombreux artistes l'ont eu, entre autres Bachung, Lerita.
Bachung, premier prix, deuxième prix téléphone, troisième prix bijoux, à l'époque, les Bus d'Acier. C'était le premier prix de rock que le Bus Palladium avait créé à ce moment-là.
Voilà, à l'époque, c'était les Jouffas qui ont eu cette idée de faire le Grand Prix du rock français. Alors, toute la presse, tous les journalistes, entre autres, avec Philippe Manœuvre, Dominique Farran, paix à son âme, étaient réunis autour d'un déjeuner. Et puis, le soir même, donc, il y avait la remise des prix au Bus Palladium.
Nouvel album aujourd'hui donc pour Axel Bauer, Radio Londres. On va écouter tout de suite le titre d'ouverture, Ici Londres. Peut-être un mot pour resituer ce que l'on va entendre.
Un mot, c'est difficile. Le mot, enfin si, non, c'est facile, c'est résistant.
Oui.
Alors, ça c'est le mot est dit. Après, l'explication, elle est plus longue puisque mon père était le speaker, enfin un des speakers de Radio Londres.
De Radio Londres, ouais. Les Français parlent auto-français, c'est lui et d'autres.
Le dernier vivant, voilà. Donc, un jour, il est venu chez moi et on parlait de Radio Londres, de cette époque où il était speaker. Et il me racontait ses années de radio, justement. Et il a réenregistré les messages à ce moment-là. Il avait 93 ans. Je lui ai demandé s'il voulait qu'on fasse une chanson hommage à cette période et à la résistance. Et puis, ça a mis longtemps parce que je n'arrivais pas à trouver l'angle. Et avec mon camarade Boris Bergman qui signe le texte ici, finalement. Boris est arrivé avec cette phrase qui dit « En d'autres temps, on n'était plus résistants ». Et là, le pont a été créé entre la résistance de papa et nous. Dans cette affirmation, il y a aussi une question qui est renfermée, qu'aurions-nous fait à leur place?
Juste une question sur la voix de votre père. Donc celle qu'on entend dans la chanson, c'est la voix de... Il avait 93 ans à ce moment-là. Est-ce qu'il avait retrouvé quelque chose de sa voix de jeunesse? Est-ce qu'il avait d'ailleurs gardé la même voix? Parce que quelquefois, on garde la même voix jusqu'à la fin de sa vie.
Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que, justement, c'est ce qui m'avait étonné. Il avait une voix très jeune, même à 93 ans.
Parfait, on l'écoute tout de suite. Ici Londres.
C'était Jacques Huchette, c'était Jean Marat, c'était Jean Berlet, c'était Jacques Brugius, c'était Pierre Bourdon, très important. Les plus importants, c'était Maurice Schumann.
L'archevêque, le Vatican doit faire avec, et la Valkyrie nous tamponne, si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages, les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes, le facteur s'endort sous nos fenêtres. Ici Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres, sur Baker Street. Ce soir, Sherlock aura la frite. Sanglots de violon à l'automne, si l'on en croit Radio London. Ici Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. existant. En d'autres temps, on n'était plus résistant.
Ici Londres, extrait de Radio L'Ombre, votre septième album depuis le premier en 87, Axel Bauer, un album dans lequel votre père, on l'entend, donne de la voix. Il vous a raconté ses 22 ans à Londres. Qu'est-ce qu'il vous en a dit?
Il m'en a raconté des épisodes, mais plutôt tardivement, en fait. Quand il est devenu le dernier speaker de Radio Londres, il a commencé curieusement à en parler, à même écrire un livre qui s'appelle 40 degrés à Londres, l'espion qui venait du jazz, parce qu'il était passionné de jazz.
Il était batteur lui-même.
Il était batteur.
Pour Django Reinhardt, c'est vrai ou c'est la légende urbaine?
Non, c'est vrai. Il se connaissait avec Grappelli aussi, donc il a joué avec eux. Mais mon père a eu mille vies, donc il n'en parlait pas, il vivait pas dans le passé. Mais quand il a écrit ce livre et quand il est devenu, je crois, le dernier speaker vivant de Radio Londres, là, on a commencé à lui poser des questions et puis il a répondu. Effectivement, moi, j'ai découvert plein d'aspects. J'ai découvert le jeune homme qu'il était, puisqu'il m'a eu, je crois, à 43 ans. Donc, il avait déjà une partie de sa vie derrière lui. Et donc, j'ai découvert ses 22 ans, sa passion pour le jazz, sa rencontre avec Louis Armstrong, ses missions d'espionnage, les Français parlent au français, voilà, son passé de correspondant de guerre.
Quelle a été la part de ce père, justement, dans votre construction musicale?
Au début, quand j'ai eu 3-4 ans, comme tous les enfants, je dessinais, mais je dessinais un peu plus que les autres.
Vous avez fait les Beaux-Arts plus tard, ouais.
J'ai passé le concours, j'ai été reçu, mais j'ai pas poursuivi, parce que j'étais passionné de musique, déjà, et ça commençait je faisais des séances, en fait. J'étais guitariste un peu pour les autres. Donc, au début, j'étais vraiment passionné par le dessin. Je faisais des dessins non-stop comme ça. Et j'aimais beaucoup dessiner à côté de mon père quand il travaillait dans son bureau. Et lui écoutait des disques de jazz. Donc, j'ai plutôt, les premiers disques que j'ai écoutés, finalement, c'est Oscar Peterson, Errol Garner, Bill Evans, tous les pianistes, McCoy Tyner, tous les disques qu'il écoutait.
Et vous, votre père, quelle part il a eu dans votre construction musicale, Jean-Charles Dupuis?
Alors mon père, c'était plutôt la musique classique, c'était Mozart, Rachmaninoff, Smetana. Donc j'ai été bercé par cette musique-là.
Donc vous vous êtes construit seul ensuite pour la musique que vous avez diffusée au Bus Palladium?
Exactement. Après, c'était plutôt, mon premier disque, c'était Chicago Transit Authority, dans les années 68 exactement.
Alors dans ce nouvel album, la guitare est omniprésente, le son est pop-rock, des solos de guitare aussi, émaillés tout au long de cet album. Qui vous a appris à en jouer? Parce que tout à l'heure vous disiez qu'à l'époque vous jouiez 6 heures par jour, aujourd'hui c'est toujours le cas?
C'est toujours le cas quand je peux, oui. Oui, c'est étonnant, hein, mais ma passion est intacte et c'est sans doute aussi parce que je suis un éternel universitaire de la guitare. En fait, j'apprends toujours des choses nouvelles. Il y a un rapport physique qui s'installe avec les années, avec l'instrument. Ça fait partie de moi. Quoi. Vraiment,
vous avez eu des professeurs, Axel Bauer?
Oui, bien sûr. Au départ, j'étais très autodidacte, mais rapidement. Alors, en fait, j'avais un petit don pour jouer vite. J'étais un peu frimeur quand j'avais 12 ans, comme ça, 12, 13 ans, quand j'ai commencé à apprendre. Et puis un jour, j'ai entendu un type qui jouait comme ça très lentement, mais les notes étaient très, très bien senties. C'était un guitariste qui s'appelait Mauro Ceri. J'ai rengainé un peu mon ego et j'ai été le voir. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'apprendre à jouer? Voilà. Et c'était mon premier professeur. Après, les professeurs, c'est vraiment ceux qu'on écoute. J'ai écouté Johnny Winter, j'ai écouté bien sûr Hendrix, tous les grands guitaristes, Jimmy Page de cette époque-là. Ça a façonné mon jeu. Voilà.
Je disais aussi que vous aviez suivi des cours de musique avec le compositeur Yanis Xenakis.
Oui.
Qu'est-ce que vous cherchiez de ce côté-là?
À vrai dire, je vais être honnête avec vous, je cherchais rien. En fait, si, je cherchais à avoir la sécurité sociale et à Jussieu, il y avait des cours, il fallait s'inscrire.
D'accord.
Et donc, voilà. Et donc, je savais pas du tout où je mettais les pieds. Le fait on avait un disque de Xenakis à la maison qui était très très beau en fait. La pochette était complètement en aluminium doré argenté. Je ne sais pas si vous connaissez ce disque.
J'adore. Bien sûr.
Je l'ai toujours d'ailleurs, je crois. Et c'est la plus belle pochette qui existe. Et j'étais très intrigué. Je ne savais pas trop qui c'était. Par contre, le disque, je l'avais trouvé très ennuyeux à l'époque quand j'avais 18 ans. Forcément, c'était pas la musique que j'écoutais. Et donc, j'ai pris des cours avec. Xenakis et son staff, donc il faisait des cours de mathématiques. D'ailleurs, il nous expliquait les équations du septième degré. On les comprenait quand il les racontait, et puis après on oubliait. Et c'est la première fois que j'ai vu un ordinateur, parce que ça devait être en 80, je crois. J'ai vu un ordinateur, je savais pas ce que c'était. Je regardais, il y avait un type qui était derrière qui tapait sur un clavier, et puis ça faisait des sons. Donc je me suis dit, tiens, on peut faire de la musique avec ça aussi.
Jean-Charles Dupuis, passionné de musique, vous avez eu aussi un passé de musicien ou jamais touché un instrument?
Je jouais un petit peu de piano, mais jamais vraiment un passé de musicien. On peut dire que j'avais une oreille, voilà, c'est surtout ça.
Oui, ça, vous avez repéré pas mal de choses. Je voudrais qu'on écoute C'est malin, parce que vous enseignez les paroles et la musique, Axel Bauer.
Jusqu'ici, les cheveux dans le vent. Le sourire, la main sur le volant. Dans la chaleur de l'été, quelques nuages annoncés. Jusqu'ici, tes yeux clairs, droit devant. Quelques voiles, mais rien de bien méchant. Pas de lame de fond. Traverse l'océan. La nouvelle est tombée ce matin. Le froid gagne un peu du terrain. J'aurais pu l'éviter. C'est malin.
Je voulais qu'on écoute un extrait de ce titre, Axel Bauer, parce que vous signez 4 titres sur 12, paroles et musique. Vous vous souvenez de l'écriture de ce texte, quand le texte est arrivé?
Il y a des chansons comme ça qui vous arrivent d'un coup, alors c'est assez à la fois... Bon, j'aime beaucoup le mot magique, mais on ne peut pas parler de magie, là, c'est du travail. Je suis avec ma guitare ou avec mon piano, et puis j'écris, je me laisse aller, et puis d'un coup, il y a ce texte qui arrive, donc... Et c'est un texte qui parle de la perte du sentiment d'immortalité qu'on peut avoir quand on a, avant d'avoir une vraie galère de santé d'ailleurs, comme c'est évoqué. Puis j'évoque un peu ce parcours et puis le changement que ça amène dans la vie. Voilà, je le fais de façon un peu métaphorique.
Vous écoutez comment ce titre, Jean-Charles Dupuis, parce que je crois que vous vouliez lui poser une question, je vous ai vu...
Oui, non, je disais à Axel, je trouve qu'il n'a jamais aussi bien chanté que sur cet album.
Mais déjà le précédent, moi j'avais beaucoup aimé Peau de Serpent, mais il y avait quelque chose d'ailleurs, comme si aujourd'hui vous radicalisiez ce que vous aviez commencé à travailler avec Peau de Serpent.
Je me suis beaucoup cherché au niveau de la voix, j'ai J'avais une facilité à me légitimer en tant que guitariste à l'époque de Cargo ou en tant qu'auteur, ou en tant que compositeur. Mais disons que mes trois premiers disques, je me disais vraiment tu devrais engager un chanteur. Et puis à un moment j'ai eu une sorte de déclic et ça a commencé à se travailler. Et puis, puis après bon, je suis passé par différentes étapes. Et puis maintenant, j'aime chanter, mais j'ai toujours été plus quelqu'un qui aime parler ou dire que vraiment faire des sons avec sa voix.
Il y a deux reprises dans ce nouvel album. La première est placée au centre exactement. C'est le poème d'Aragon mis en musique par Léo Ferré.
Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Bien sûr, ce poème d'Aragon, on le met en lien avec le Radio Londres, la période de résistance, la Deuxième Guerre mondiale. Et un peu plus loin sur l'album, on trouve une autre reprise à « Qui n'a pas aimé » de Gérard Manset.
Qui n'a pas connu l'amour, n'a pas aimé. Qui n'a pas touché ses lèvres, embaumées. Pas senti sur lui son regard lourd, ses yeux de maladie, de fièvre, désarmés.
Gérard Manset, Léo Ferré, qu'est-ce qui se joue là pour vous, Axel Bauer?
Deux choses différentes. Est-ce ainsi que les hommes vivent, c'est un challenge très fort de reprendre, de passer derrière déjà Ferré, mais aussi tous ceux qui l'ont repris. Il y a des très belles versions de Lavilliers, oui, notamment. J'ai commencé à travailler sur cette chanson. Je voulais en faire la version rock, et puis après, j'ai pu regretter un peu parce que c'était un travail de quasiment 2 ans. Tout à l'heure, on parlait de chansons qui arrivent en 5 minutes. Là, c'était vraiment un travail ardu pour arriver à en faire cette version. Gérard Manset, on se connaît bien sûr et on est amis. J'ai collaboré avec lui sur un de ses albums, Un oiseau s'est posé, et on a beaucoup de discussions sur la réalisation, sur l'instrumentation, etc. Et là, j'avais fait cette maquette pour lui dire je trouve que tu devrais la faire comme ça, celle-là. Et puis en fait, je l'ai gardée pour moi.
Axel Bauer, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Jean-Charles Dupuis pour un revival Bus Palladium dans quelques instants. Avant cela, Marion Guilbeault va tirer le fil de l'actualité. Et là, maintenant, place à Bernard Lavilliers. Il suffisait de dire son nom pour qu'il arrive. Qui adapte une chanson de Céu George pour sa compagne. Et ça donne Toi et moi sur France Inter.
On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire, ces connards amnésiques ont foutu en colère. Juste toi et moi. Toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes, t'as toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dont la foule anonyme arrive au flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues, brillent ton cerveau, sont tes pires cauchemars. Juste toi et moi. Pas toujours facile, toi et moi, toujours indivisible, toi et moi. Si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore. Juste toi et moi.
22h35, vous écoutez France Inter, il est temps de reprendre le fil de l'actualité musicale avec Marion Guilbeault.
Côté club,
le fil.
L'événement de la semaine, ce sont les concerts de PNL. Enfin, quand ils ont lieu, les concerts. Parce qu'après avoir annulé leur show à Lyon et à Nice, à la toute dernière minute, le duo des Tarterets s'est finalement installé à Paris, à l'Accor Arena, pour 4 dates événements, et ce, jusqu'au 27 mai. Les frérots ont présenté leurs plates excuses à leurs fans pour les annulations, en promettant de recaler les dates au plus vite. Le concert de la semaine, c'était celui de Oshi, et c'était samedi soir dans le Pas-de-Calais.
Message d'amour. Ce message, il s'adresse à la femme qui partage ma vie.
Allez,
ma sœur ! Alors, c'est ça. Aux côtés d'Oshi, devant tous les spectateurs.
Et c'est Emeline, une des fans de la chanteuse, qui est montée sur scène sous les applaudissements du public. Elle a sorti une bague, elle s'est mise à genoux, elle a fait sa demande en mariage à sa chérie, également sur scène avec elle. Réponse évidemment positive de l'intéressée. Vidéo qui a déjà été vue plus de 30 000 fois sur les réseaux sociaux. Un mariage à Bruay-la-Bussière avec Oshi, c'est encore mieux qu'à Las Vegas avec Elvis. La victoire de la semaine, c'est celle de Florent Pagny, enfin de sa protégée, la jeune Nour, dans The Voice, samedi dernier sur TF1, devant 3,7 millions de téléspectateurs. C'est la cinquième victoire du chanteur et sa dernière, puisqu'il a annoncé son retrait du programme pour se concentrer sur sa santé et sa vie de famille. Âgée de 16 ans, Nour avait impressionné le public avec ses reprises de Shallow, Lady Gaga ou encore Vol de Céline Dion. La fête de la semaine, ce sera samedi au château de Versailles, qui ouvre ses portes et surtout ses jardins aux clubbers de 20h30 à minuit. C'est l'impératrice en mode DJ set qui ouvrira le bal, suivie par le duo Justice au pied de la Galerie des Glaces et par une battle musicale entre Miss Kittin et Pedro Winter, le curateur de cet événement. L'anniversaire de la semaine, c'est celui de Trax, les 28 et 29 mai au périphérique. C'est dans le parc de la Villette à Paris. Trax, c'est le magazine de référence en France sur la nuit, la fête et les cultures en mouvement. Il célébrera ses 25 ans en plein air avec les pointures de la scène électro avant de poursuivre la bamboche dans 12 clubs dans tout l'Hexagone. Le geste écolo de la semaine, c'est la tournée Océane accomplie par le groupe Papouze et la diva portugaise du Kuduro Pongo. Ils seront en tournée, ou plutôt en croisière, voire en cabotage, du 25 au 28 mai, le long de l'océan Atlantique, à Brest, La Rochelle, Bordeaux. 3 soirées festives en accès libre. C'est une initiative franco-portugaise pour promouvoir en musique la protection des écosystèmes marins.
Ma personnalité ou mon âme s'est éparpillée, quoi.
Don ou pas don, talent ou pas talent. Le secret du talent, c'est quoi ?
Enfin, le doc de la semaine, c'est sur Slash TV depuis hier soir avec BXXL, une série sur le rap belge, plus particulièrement celui pratiqué à Bruxelles. On connaissait déjà Damso, mais c'est l'occasion de suivre ce 4 épisodes, les itinéraires et les sons de Romeo Elvis, Blue Samu, Guico et Smalo. Une fois? Non, 4 fois.
Alors, les concerts de PNL, la demande en mariage pendant le concert de Hoshi, Florent Pagny qui arrête The Voice, le château de Versailles qui accueille la crème de l'électro, BXXL, le rap belge, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Axel Bauer?
Oh là là, c'est...
Et Jean-Charles Dupuis, il y a une information qui vous a plus particulièrement marqué?
Moi, j'étais plutôt hier... aux 70 ans de Ramon Pipin au Café de la Danse, donc c'est ça qui m'avait marqué hier. Voilà, un super concert, beaucoup de gens sur scène, une vraie fête.
Ouais, tous ses copains.
Ouais.
Moi, c'est plutôt le retrait de Florent Pagny. Voilà.
C'est-à-dire?
Bah, c'est un homme très sympa, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois, et c'est un mec bien, voilà, tout simplement.
Côté. Club.
Notre Dame du Clair.
Sur France Inter.
La classe, une ouverture a cappella, mystique, un truc grandiose. Ça vous rappelle des souvenirs, Jean-Charles Dupuis?
Oui, c'est le premier soir où je mets les disques au Bus Palladium, parce que je dis je mets les disques, parce qu'à l'époque on disait pas DJ, enfin on disait disquaire.
Disque jockey.
On disait disquaire, j'étais disquaire, voilà, j'étais pas disque jockey. Et la première, le 22 mai 79, je commence par ce titre exceptionnel de David Crosby.
C'était quand même assez culotté de commencer par un truc pareil.
C'est une ambiance de cathédrale. Quand les gens sont rentrés, non, ils ont rien compris. Et en fait, j'ai installé à partir de ce moment-là ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire une soirée en 3 étapes. Ça veut dire un début de soirée avec les nouveautés, que ce soit Crosby à l'époque, etc., ou toute la scène anglaise que j'ai commencé à travailler au tout début des années 80 avec Police, entre autres, que j'ai mis vraiment très, très en avant. Et... c'était très important pour moi. Aujourd'hui, la scène, enfin, on va dire, des DJ, c'est, on passe des morceaux de A à Z. Moi, il y avait 3 parties. Le milieu de soirée, à partir d'1h du matin, je faisais danser les gens et je finissais avec du Led Zepp à partir de 4h du matin.
Le 22 mars 1979, vous aviez quel âge?
23 ans.
23 ans. Ça ressemblait à quoi, le Palladium, donc, à la fin des années 70? Je rappelle que la boîte de nuit avait été créée, bien sûr, dans les années 60. En 70, c'est quoi, le Bus Palladium?
Alors, c'était créé en 65 par James Arch, ouais. Hein, donc c'était un club déjà qui avait une aura, parce que Salvador Dali y était passé, avait lancé le club, etc. Et à partir des années 74, ça a été un renouveau complet avec, moi je les appelle les trois grâces, c'était Josie, Cathy et Manet.
Josie qui était au vestiaire,
voilà.
Qui était, alors, qui connaissait tout le monde, qui était la pote de Devers, de Patrick Devers, la pote de Jean-Yann aussi.
Exactement.
Il y avait qui d'autre?
Et puis Cathy qui l'a fait rentrer, qui était aussi avec elle au vestiaire et qui était dans la salle. Et puis Manet, qui était la sœur de Cathy. Donc en fait, elle générait une espèce de bonne humeur dans cet endroit où tous les gens se sentaient à la maison. Donc en fait, ce qui était formidable, c'est que les filles, les nanas, elles n'étaient pas emmerdées. Elles n'étaient pas emmerdées par les mecs parce qu'elles venaient pour danser, elles étaient à la maison.
Retour donc dans ce Bus Palladium, une boîte avec des personnages formidables. La boîte a été fermée d'ailleurs le 2 avril dernier. Ça va devenir, bien sûr, comme partout à Paris, un hôtel de luxe. Vous avez été à la soirée de fermeture?
Non, je n'y suis pas allé. On devait faire une grande fête. Ça ne s'est pas fait parce que pour les budgets, etc. Puis moi, je suis resté fidèle aux gens avec qui j'ai travaillé. C'est-à-dire, moi, je travaille avec Josie et puis Bruno le portier. Donc, c'est pas du tout par rapport à l'équipe qui est d'aujourd'hui, mais c'est plutôt par rapport à... je dirais, une fidélité à Josie.
Dans ce livre, donc, on croise Jean-Yann, Christian Vadim, le fils de Catherine Deneuve qui vend des bonbons, on y croise Gainsbourg, Patrick Devers qui demande que vous lui passiez du Supertramp, vous le faites. Plus tard, c'est Christophe Lambert, période Tarzan, qui vous demande de passer Ghostbuster, vous refusez. Alors moi, je voudrais vous faire écouter un mix de notre réalisateur, un enchaînement, et vous allez nous dire ce qu'il en est après.
You're the devil's pride. Do you realize that all of you don't have some home? Boy, you hate it, that was part of you. I'm your nightmares coming true. I am your crime.
Un commentaire sur tout ce que l'on vient d'entendre qui signe votre toute première soirée avant même que vous soyez le DJ officiel du Bus Palladium, Jean-Charles
oui.
Dupuis.
Oui, en fait, Sergio, qui était le DJ du club, en fait, m'a laissé des platines un soir, et puis je me suis retrouvé avec des tas de vinyles devant moi, et puis j'ai fait à ma façon. Donc il y avait Jackson Brown, la version que vous avez passée de Stay, il y avait Nighttime in Switching Yards, The Warren Zevon, et puis ce tube énorme que j'ai mis pendant des années avec un batteur exceptionnel, malheureusement qui est mort, qui s'appelle Jeff Porcaro, qui est Lowdown de Bo Scaggs, qui était un titre absolument que les gens demandaient en permanence. Et puis Life at Last de Phantom of the Paradise. Donc là, ça a été, j'ai essayé de casser un petit peu ce qui se faisait au niveau des codes. Voilà.
C'est Sergio aussi qui vous dit à la fin, pour le dernier titre, il va falloir que tu brises, parce que ce que tu fais, c'est absolument génial, mais là, il ne faut pas que tu continues dans cette direction.
Exactement.
C'est trois titres dans la même direction et ensuite tu casses.
Tu casses le rythme. Voilà. C'est un espèce de mantra que se donnaient les DJ entre eux.
C'est Meatloaf. C'est Meatloaf qui chante, non, sur Rocky.
Ouais.
Avec cette culture musicale, Axel Bauer, vous auriez pu aussi passer des disques, comme on dit à l'époque.
J'aurais adoré, en fait.
C'est vrai ?
Je pense que j'aurais beaucoup aimé ça. Hein.
Alors, vous racontez 20 ans de nuit, de musique, de danse, de drogue aussi. D'ailleurs, le récit s'ouvre sur une scène de thriller. On vous trouve en slip, en chaussettes, ligoté dans une baignoire, bailloté par un ruban de scotch. Comment vous en êtes arrivé là et surtout, que raconte cette scène qui ouvre le récit à la Scarface ?
En fait, je me suis retrouvé dans une histoire où j'ai consommé de la drogue dans ma vie et puis un matin...
Beaucoup de drogue. Beaucoup d'héroïne, ouais.
Beaucoup d'héroïne, en fait. Et un matin, en fait, un copain que j'avais me demande d'aller avec lui chez un antiquaire. Voilà, et puis on va fumer de l'huile de shit dans un petit appartement. Et puis à partir de ce moment-là, il y a la porte, on frappe, et puis l'antiquaire qui était là, il nous dit, vous inquiétez pas, c'est Malana, on part à Saint-Ouen, je vais faire une broque, etc. Sauf que c'était pas du tout sa petite amie, c'était deux cow-boys qui sont arrivés. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait le disque de Neil Young, Harvest, qui passait, et qu'à partir de ce moment-là, les deux cow-boys qui avaient des accents ruskov étaient venus pour chercher du shit et certainement beaucoup plus. Et là, on s'est tous retrouvés dans une situation dramatique. Moi, j'ai cru que ma dernière heure allait arriver, vraiment.
Et vous commencez le récit sur cette histoire.
Oui.
Vous avez eu vos
amis. J'ai rencontré des Russes, oui, mais...
Axel Bauer.
En ce moment, ils sont dangereux.
Oui, pareil. C'est vrai. Ouais. Pour d'autres raisons. Vous gagniez combien à l'époque par soirée ?
Alors j'ai commencé à 250 francs, après c'était 500 francs, mais surtout où je gagnais ma vie, c'était avec les cassettes.
Il faut expliquer les cassettes.
Alors les cassettes, les gens, comme je vous ai dit, il y avait trois parties, donc les gens disaient je veux le début de soirée. Donc
vous faisiez des cassettes, pas vous enregistrer en direct, c'est ça ?
En direct, exactement. Et puis il y avait Radio Bus aussi, les premières radios libres, donc ça c'était très sympa parce qu'ils pouvaient avoir les cassettes de Radiobus.
C'est combien la cassette?
200 francs.
Ah oui. Ah donc ouais, le prix de la soirée, oui quand même.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et
ouais,
donc
ouais,
vous en vendiez combien par soirée?
Pas mal.
Pas mal.
Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a permis
De vous acheter de l'héroïne.
De me payer ma cam.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Vous étiez aussi du côté des cassettes?
Ah, j'ai cru que vous alliez me demander si vous parlez de la cam.
Oh bon, si vous voulez répondre à cette question, vous pouvez.
Non, non, on va. En fait, non. J'ai eu la chance, jeune guitariste, de jouer dans un groupe où tout le monde prenait de l'héroïne et donc je savais pas ce que c'était, mais tout le monde m'en préservait aussi. On disait oui, le gamin, jeune, le petit jeune, il faisait attention, mais. J'ai eu des cuillères chauffées, des trucs, donc je posais des questions. Et puis quand j'ai vu les dégâts que ça avait fait sur eux, ça m'a tout de suite vacciné de ne pas en prendre. Ouais.
20 ans de boîte de nuit, vous en cabine, avec des scènes effrayantes. Par exemple, une mob incendiée dans les escaliers, les Hells Angels qui débarquent et qui cassent tout sur leur passage. Et puis la faune, parce qu'il y avait absolument tout le monde, tout et n'importe quoi, notamment par exemple le GUD. Groupuscule d'extrême droite qui avait non pas ses quartiers, mais qui fréquentait le Bus Palladium aussi.
Oui, oui, très souvent. Et il se fréquentait, en fait, avec beaucoup de juifs du sentier étaient là. C'était plutôt, il n'y avait pas vraiment de soucis. Par contre, le jour où il y a eu la fameuse attaque de la synagogue, le 3 octobre 80, jour de mon anniversaire, là, ça a été très compliqué parce que il a fallu sortir le patron du GUD qui était à l'intérieur et ça a entraîné toute la rue Fontaine était remplie de tous les juifs de Paris qui étaient persuadés que c'était un coup de l'extrême droite et voulaient tout casser au Bus Palladium.
Dans les années 80, il y avait le Bus Palladium, mais il y avait aussi le Palace. Vous étiez au Bus, Albert Cosby était au Palace. Quelles étaient vos signatures respectives? Vous alliez, on voit, vous le racontez, vous alliez chez lui, enfin au Palace, pour écouter des sons que vous alliez ramener ensuite au Bus Palladium, Jean-Charles Dupuis.
Alors, j'étais très copain avec Guy Cuevas, qui était le DJ, et puis...
Qui vient de sortir un livre, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Ouais. Et puis Albert Kosky était le grand organisateur de concerts. C'est là où j'ai vu pour la première fois U2 avec 10 personnes dans la salle. Et les gens dansaient le pogo, c'était invraisemblable.
Le Bus a inventé les soirées Lady Nights, c'est-à-dire les filles qui ne payent pas le mardi. Ensuite, tout Paris a suivi. Il y a eu les Bus d'acier, on en parlait tout à l'heure, un prix pour le rock français. Il y a eu même une équipe de foot du Bus Palladium qui n'a jamais rien gagné. Vous en parliez, vous aviez une technique donc en trois temps pour les soirées. Début de soirée, vous nous avez demandé ce titre. Donc ce genre de titre qu'on identifie, c'est...
Alors c'est The Blue Nile. The Blue Nile est un groupe qui est apparu en 83. J'étais un des premiers à placer ce titre. En fait, j'adore la musique anglaise. Le club était très musique américaine et c'est justement ces groupes-là, entre autres The Blue Nile, toute cette scène écossaise avec John Martin, tous ces groupes qui sont arrivés, qui ont permis d'amener quelque chose de différent au Bus Palladium.
Ça, c'était pour installer la soirée.
Installer la soirée, exactement.
Milieu de soirée. Axel Beauvoir, vous avez identifié le
titre? Steely Dan, oui, bien sûr, avec Larry Carlton. Non, peut-être pas Larry Carlton à la guitare, d'ailleurs.
Non, c'est pas...
C'est pas Larry,
C'est pas Larry Carlton, et là, par contre, j'ai un petit trou, là. Donc, je ne sais plus, ne sais plus.
Le titre, c'est Josie.
Josie, c'est pas par hasard que j'ai choisi
entendu,
ce titre-là.
Parce que c'était le nom du vestiaire du Bus Palladium. Ouais. Donc là, milieu de soirée, et avec ça, normalement...
Ah bah les gens dansaient tout de suite, bien évidemment. Les gens dansaient et puis, comme je vous ai dit, à partir d'une heure du matin jusqu'à 4h du matin, c'était, on peut dire, le feu.
Et puis, la fin de soirée. Finissez la soirée avec ça.
Oui, alors ça c'est une reprise de Fleetwood Mac qui est un morceau célèbre qui s'appelle Oh Well, et un groupe du Michigan entre autres, c'était un groupe qui s'appelait Mitch Ryder, a monté The Rockets, et la version de Oh Well est une des plus déjantées que j'ai écoutées.
Donc vous finissiez avec du rock en fait.
Ah mais complètement, mais c'était Led Zeppelin, c'était voilà, c'était voilà, Mick Taylor, les Stones, etc. Enfin bon, je pourrais en dire.
Vous validez la soirée, Axel Bauer ?
Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais en train de me dire que les choses ont beaucoup changé en fait.
Ah ben aujourd'hui, il n'y a pas du tout la même dramaturgie.
Mais c'est terrible parce que.
Mais c'est bien aujourd'hui aussi.
Bah oui, oui, il y a des trucs super aussi aujourd'hui, c'est vrai. Ouais.
Mais vous allez voir comment on finit la soirée sur France Inter.
Allez.
Dans le nouveau rendez-vous. On va finir sur Baptiste W. Hamon. C'est autre chose. Je voulais une chanson ensoleillée qui raconte les pérégrinations de l'âme et qui évoque de longues routes désertiques, des paysages qui défilent vers une promesse nouvelle. Je m'abandonne à toi dans Côté Club. Fin de soirée.
Je voudrais te revoir pour te dire tout bas des choses maladroites que l'on ne dit qu'une fois, mais te les dire à toi et t'ouvrir grand mon âme pour t'offrir enfin tout ce qu'il faudra, les rires, la flamme. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous connaissons depuis 100 ans déjà. Oui, nous dirons tout, nous ne faiblirons pas. Je me plierai à tes ordres, je serai fou de toi, au doute, à la discorde, je dirai souviens-toi. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous vivrons heureux, contraints d'aucune loi, et j'ai l'ennui de toi. Oui, j'ai l'ennui de ça.
Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci Axel Bauer.
Merci Laurent.
Votre album Radio L'Ombre parle aux Français et vous serez sur scène le 2 juillet au Festival Musique en Ciel de Saint-Priest, le 21 juillet au Festival Cassis en Seine, le 22 aux Nuits de la Guitare à Patrimoniaux, et puis ça reprend à l'automne avec le Trianon à Paris le 15 novembre. Merci Charles Dupuis.
Merci Laurent.
La Nuit va nous perdre, apparu chez Sonatine. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain,
Macron, 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 Macron,
émission politique avec Dombrance pour son album République électronique et un mix de Superman Lovers qui fête ses 20 ans de French Touch et un nouvel album Body Double. Côté club, c'est toute une équipe pour vous faire plaisir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique ce soir, Vincent Désières, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation, Valentine Chedebois qui veille sur les playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
Côté.
Oui.
Club.
Bye.